En Hongrie, il a existé toujours le déteste des étrangers et Orbán veut profiter de la haine hongroise.
La société slovaque reste assez conservatrice. Avec ce flux de migrants, ce conservatisme se renforce. Même s'ils ne sont pas ici physiquement, les gens, ils ont peur.
Le parti d'extrême droite insiste lourdement là-dessus, que bon, un pays comme l'Autriche a droit à une identité culturelle et que cette identité est menacée, que le multiculturalisme a fait faillite, etc.
Serait-ce une sorte d'épidémie ? À l'est de l'Europe, certains dirigeants ne cachent plus leur haine des étrangers. Pire, leur politique s'en inspire et les mesures antidémocratiques ou ouvertement xénophobes font florès. Viktor Orbán en Hongrie, Robert Fico en Slovaquie et bientôt peut-être, on le saura dimanche soir, Norbert Hofer en Autriche. Le candidat d'extrême droite à la présidence de la République avait manqué d'un cheveu l'élection finalement invalidée en mai dernier. Un nouveau scrutin ce dimanche pourrait bien lui offrir cette fois-ci le pouvoir. Vu d'Europe de l'Ouest, c'est l'arrivée massive de migrants qui semble avoir causé cette montée des populismes dans cette région de l'Europe. Mais le mal n'est-il pas plus ancien ? Et l'inertie de Bruxelles face aux coups répétés contre les appareils démocratiques n'est-elle pas en partie responsable ? Face à la montée des discours et des actes hostiles envers les minorités et ou les migrants, face au retour d'un conservatisme dont on pensait sans doute naïvement qu'il était dépassé, l'Europe de l'Ouest doit-elle craindre la contagion ? Europe centrale, le laboratoire du populisme, c'est le magazine de la rédaction ce soir de Bruno Cadel. Et pour commenter ce magazine avec nous en studio ce soir, deux invités, Patrick Moreau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien et politologue au CNRS, membre du think tank Fondapol, auteur notamment de l'Autriche des populistes aux éditions Fondapol. Et puis Alain Soubigou, bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Historien, vous aussi, maître de conférence au Centre d'Histoire de l'Europe Centrale Contemporaine, Paris 1, Sorbonne. Et puis avec nous, l'auteur de ce reportage, Bruno Cadel. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Anna.
Vous êtes donc rendu, Bruno, dans trois pays d'Europe centrale pour tenter d'y analyser cette montée des populismes.
Oui, le reportage nous emmène effectivement dans trois pays, en Hongrie où depuis plus de 6 ans, le conservateur Viktor Orbán met en place sa démocratie illibérale, en Slovaquie où le pourtant social-démocrate Robert Fico mène une politique très proche de celle de Viktor Orbán sur les thèmes des migrants, de la religion et des traditions, et en Autriche où l'extrême droite est aux portes du pouvoir.
Alors première étape, vous l'avez dit, la Hongrie où le Premier ministre Viktor Orbán a mis le dossier des migrants au cœur de la vie politique du pays, même si ça n'a pas toujours été d'ailleurs synonyme de succès pour lui.
Oui, son référendum contre les quotas de migrants a été retoqué faute d'une participation suffisante et il n'a pas eu de majorité au Parlement pour inscrire cette interdiction des quotas dans la constitution hongroise. Pourtant, pour l'opposition, le mal est fait. La haine des étrangers est entrée dans les cœurs et cela fait peur à András Dési, journaliste au quotidien proche de l'opposition socialiste Népszá Bazag, un journal qui vient d'être fermé officiellement pour raisons financières.
L'ambiance est nerveuse, il y a beaucoup de tensions, mais si vous allez dans les rues, vous ne la sentez pas. Mais dans la presse, dans la vie politique, dans les discours des gens, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de questions et il y a beaucoup de haine, malheureusement. C'est vraiment ça et moi je cherche à comprendre les Hongrois, mes compatriotes, parce qu'en été 2015, l'ambiance était tout à fait différente, surtout ici à Budapest. Moi aussi je me suis déplacé plusieurs fois à la gare Keleti. J'ai vu beaucoup de gens qui se sont déplacés aussi à la gare Keleti pour aider. Ils ont apporté de l'eau, de la nourriture, comme ça. Et dans 5, 6, 7 mois, l'opinion publique a beaucoup changé. C'était un changement radical. Je pense que ce sont les actes terroristes, surtout en France, 2015, après ce qui s'est passé en Allemagne, à Cologne. Alors, tous ces incidents, tous ces actes terroristes ont contribué au changement radical de l'opinion publique hongroise. Et il faut ajouter que la propagande du gouvernement hongrois est très forte, est vraiment très forte. La propagande va jusqu'au bout et est très, très efficace. Il faut dire que vraiment, c'est très efficace. Il y a beaucoup d'étrangers en Hongrie. Par exemple, il y a beaucoup de Hongrois font le shopping dans les magasins chinois parce qu'ils sont moins chers que les magasins de la grande distribution. Alors, à ce niveau, vous n'avez pas de problème. Mais quand on commence à parler sur l'immigration, l'ambiance se change radicalement. Et on aperçoit une telle haine qui me fait peur. Parce que ça, je pense que c'est un peu comme ça dans les années 1930, quand le nazisme est arrivé en Allemagne, et après, on sait bien quelle était l'histoire européenne du XXe siècle.
Est-ce qu'il y a une particularité à la Hongrie qui expliquerait ça, un conservatisme qui existerait depuis longtemps?
Il y a une particularité hongroise. C'est un peu lié à l'histoire de la Hongrie. Ici, en Hongrie, beaucoup de gens, je dirais la plupart des gens, pensent que la Hongrie, elle était toujours victime des autres. Que nous ne sommes pas responsables pour rien. Et on était toujours victime de l'histoire. Et l'exemple, c'est toujours le traité de Trianon, qui est vraiment un traité injuste. Mais ça passait il y a 100 ans. Pour moi, le plus grand problème de la société hongroise, c'est qu'on regarde toujours à l'arrière. J'ai l'impression que mes compatriotes, ou la plupart de mes compatriotes, ils vivent toujours dans le passé, dans l'histoire.
Et Viktor Orban se sert de l'histoire de la Hongrie pour asseoir son pouvoir politique et se présenter comme le meilleur défenseur de la nation hongroise. Et la crise des migrants l'aide en cela. Banque Levente Boros, analyste à l'Institut Nézőpont, proche du pouvoir.
La population hongroise est unie contre la venue de migrants, bien au-delà des différences partisanes. 80% des Hongrois estiment qu'il pourrait y avoir dans un futur proche une nouvelle vague de migration illégale à travers les Balkans pour se déverser dans l'Union européenne, et dans le même temps, une large partie de la population, toujours 80%, estiment qu'il pourrait y avoir quelque part une nouvelle attaque terroriste en lien avec la migration sur le continent européen. Donc, l'opinion publique hongroise est unie derrière l'approche du gouvernement. Et dans le même temps, il y a une menace ou une peur de la migration et des migrants. Il y a une dizaine d'années, ou même plus, pour les Hongrois, l'immigration illégale ou la migration étaient des problèmes lointains. Ce n'étaient pas des choses que nous avions déjà expérimentées. Mais depuis un an et demi, ces sujets nous ont été amenés en Hongrie, et donc, malheureusement, les Hongrois ont été confrontés à des flots de migrants illégaux. La première fois, c'était il y a un an, où des dizaines de milliers de migrants sont apparus aux frontières de la Hongrie, et même jusque dans la capitale. Il y a eu des émeutes, ils ont attaqué les forces de l'ordre et nos frontières ont été franchies. Cela a été un choc et une vraie expérience pour les Hongrois pour comprendre comment pouvaient arriver des flots de personnes non hongroises et de non européennes dans le pays ou à travers le pays. Dans le même temps, il y avait un autre sujet que les Hongrois n'avaient pas encore expérimenté, ce sont les attaques terroristes qui ont eu lieu à travers l'Europe. Soudainement, ce n'était plus pour les Hongrois des informations dans les médias, mais une vraie expérience. Et cela leur a fait peur pour leur avenir. Donc, ce que l'on peut voir avec cette histoire de migration en Europe et dans l'Union européenne, c'est que c'est Viktor Orban qui a souligné le phénomène, les problèmes et le danger potentiel de toutes ces migrations. Et il était plus ou moins seul au début à tirer la sonnette d'alarme, seul à dire que nous faisons face à une crise et un vrai problème. Et comme l'UE était incapable de réagir, Viktor Orban et son gouvernement ont décidé de franchir le pas et de protéger les frontières de la Hongrie et de régler le problème de la migration sur des bases nationales. Et à partir de là, la position de Viktor Orban s'est propagée au cours des derniers 18 mois. Parce que ce que la Hongrie a fait était une solution potentielle. Et c'est même devenu un précédent possible pour les autres pays et bien entendu pour l'avenir. Et cela a même été un événement pour l'Europe centrale car pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, les quatre pays du groupe de Visegrad ont été capables d'unir leurs forces et d'avoir une vision commune à la fois de la nature du problème causé par les migrants et de la solution potentielle à ce problème.
Budapest, capitale de la Hongrie, un pays fortement opposé aux migrants, avec un gouvernement conservateur qui défend une démocratie allibérale et une extrême droite très puissante. Alors où va la Hongrie ? Toujours plus à droite ?
Sur les sujets de société, je dirais que la Hongrie est un pays conservateur.
Gellert Rajsani, rédacteur en chef du site conservateur libéral Mandiner.hu.
Comme la plupart des pays d'Europe de l'Est, à cause du rideau de fer à l'époque communiste, qui a entraîné un éloignement des pays occidentaux, qui eux, après la Seconde Guerre mondiale, ont connu une autre phase de développement, comme la France, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, des pays qui avaient traditionnellement des colonies. Et dans ces pays, les Français savent bien que la décolonisation a été un sujet difficile. Mais dans ces pays d'Europe occidentale, les gens sont habitués aux personnes en provenance du tiers-monde, d'Afrique, des pays arabes, et qui vivent en Occident depuis parfois des générations. Les pays d'Europe orientale n'ont pas été des pays colonisateurs. Ils ont même plutôt été colonisés par les Russes, les Soviétiques ou les Allemands. Ils n'ont pas toujours été des pays indépendants. Ils n'ont donc pas été confrontés à des gens du tiers-monde. C'est donc pour eux un phénomène totalement nouveau. Alors bien sûr, l'intégration peut être une bonne chose, mais nous voyons également tout ce qui va mal dans les pays occidentaux, qu'il y a des banlieues où les choses se passent mal. Alors même si les pays d'Europe de l'Est sont plus pauvres que les pays de l'Ouest, nos sociétés ne veulent pas voir des banlieues, des ghettos que les migrants pourraient créer dans les villes hongroises. Alors je sais qu'il y a une nouvelle génération en Hongrie qui a eu la possibilité de voyager à l'étranger, même en famille dans les années 80-90 quand ils étaient enfants, et qui a eu la possibilité d'aller étudier à l'Ouest avec le programme Erasmus, ou qui maintenant travaillent dans les pays d'Europe de l'Ouest, et qui parfois sont des sortes de migrants qui travaillent clandestinement à l'Ouest. Et donc quand ils rentrent au pays, ils reviennent avec une vision différente. Mais bien sûr, ça ne signifie pas pour eux, ou pour moi personnellement, que tout ce qui se passe en ce qui concerne l'immigration en Europe de l'Ouest est bien, que c'est une bonne chose, que c'est parfait. Non, ce n'est pas parfait en France. Ce n'est pas parfait aux Pays-Bas ou en Belgique, si vous constatez ce qui se passe dans certains quartiers de Bruxelles. Donc je pense que ça prend plus de temps que ça pour changer les traditions et les habitudes d'un peuple. Nous avons besoin de temps pour comprendre quelles sont les bonnes choses à prendre dans les pays occidentaux. Mais nous ne voulons pas nous retrouver dans les mêmes impasses dans lesquelles se trouvent, même partiellement, les systèmes d'intégration des pays occidentaux.
L'Europe centrale ne voudrait donc pas suivre le modèle occidental en matière d'immigration. C'est l'avis du journaliste Aaron Kuti du quotidien conservateur Magyar Nemzet.
Vous savez, nous sommes particuliers. Nous sommes des gens étranges, peut-être. Je ne sais pas. Mais l'Empire des Habsbourg avait une très longue tradition conservatrice. Même si je pense que c'est plus lié à tout ce que nous avons vécu au cours du XXe siècle. C'est d'avoir connu le communisme qui reste le cœur de notre manière de penser, de notre comportement, de notre manière d'être commune à toute l'Europe centrale, avec les Slovaques, les Serbes, peut-être même les Ukrainiens. C'est une manière différente de penser la société, de donner un rôle plus important à la famille, à la religion, une certaine méfiance vis-à-vis des corporatismes. C'est un sentiment assez complexe qui nous vient de l'Empire des Habsbourg. Puis juste après la chute de l'Empire, nous avons dû faire face à d'autres idéologies. Puis est arrivé le communisme, qui a quand même été là pendant 50 ans. Et après est arrivée la liberté. Donc tellement de choses nous sont arrivées en 150 ans. Il faut penser à ça quand on pense aux réactions dans notre pays. En 2004, après l'élargissement, qui a été une bonne chose, nous avons dû collaborer avec l'Occident. Mais nous nous rappelons que nous ne sommes pas exactement les mêmes. Je ne sais pas exactement comment le dire. Nous pensons différemment. Nous avons des sociétés différentes, des connexions différentes entre nous. J'ai été à Paris, Bruxelles, Londres, et je pense que le mode de vie est différent à Budapest, Varsovie, Bratislava. Ok, nous avons des valeurs communes quand il est question de la politique générale de l'Union européenne, mais la manière de penser des gens est différente.
Non seulement la société hongroise rejette massivement l'arrivée de migrants, mais au-delà refuse l'idée même de multiculturalisme, un constat que fait Szabolcs Dúl du portail index.hu, proche de l'opposition.
En Hongrie, il a existé toujours la hostilité des étrangers. Il y a 5 ou 6 années, le déteste des étrangers, le déteste des tziganes, des juifs, était dans le centre de politique d'une autre partie, Jobbik, ou Jobbik. Le Jobbik déteste les migrants, mais le Fidesz a volé la stratégie de ce parti et Orbán veut profiter de la haine hongroise. Et il y avait un très bon sondage il y a quelques années sur le déteste des étrangers. Et selon le sondage, on peut savoir que les 2/3 des Hongrois détestent les Pirés, une population fictive. Et des 2/3 des Hongrois a répondu « Oh non, les Pirés, et je déteste les Pirés, je ne veux pas qu'un Pirés vive dans mon voisin. » Les 2/3 des Hongrois ne veulent pas accepter des Pirés, c'est-à-dire je ne veux pas des migrants. Au début de la crise d'immigration, Orbán a dû décider s'il soutient la politique de l'Union européenne, la politique d'Angela Merkel. Et Orbán a décidé qu'il luttait contre Merkel et plutôt il voudrait gagner les élections législatives qui seront imposées en 2018.
C'est la même chose, le conservatisme de Orbán avec le conservatisme en Autriche ou celui de Robert Fico en Slovaquie.
Je pense qu'il y a des ressemblances entre la politique de Fico, Orbán et par exemple Hofer qui veut devenir le président de l'Autriche parce que Orbán et Fico et Hofer veulent gagner la sympathie des pauvres, ce qui ne veut pas que les migrants prennent les aides et ils veulent profiter de certaines. Je pense.
On pourrait dire qu'il veut se servir aussi peut-être du groupe de Visegrad.
Orbán est très fort dans le groupe Visegrad, mais le chef de ce groupe est toujours le président ou le premier ministre de la Pologne. Parce que Pologne est beaucoup plus grand que la Hongrie et pour l'Allemagne, pour les États-Unis et pour la Russie, la Pologne est toujours beaucoup plus importante que la Hongrie. Orbán ne peut pas diriger ce groupe.
Alors après Budapest, à 2 heures de voiture de là, direction Bratislava en Slovaquie. Bruno, la Slovaquie gouvernée par le tumultueux Robert Fico, le Premier ministre, membre du Parti social-démocrate, mais qui s'est allié pour gouverner avec les nationalistes du Parti national slovaque.
Oui, le Parti social-démocrate Smer, la direction en Slovaque, est membre du groupe socialiste et démocrate au Parlement européen en compagnie du PS français, du SPD allemand ou des travaillistes britanniques. Il en avait été exclu lorsqu'il avait fait une première alliance avec les nationalistes du SNS. Actuellement, il a renouvelé cette alliance, mais comme ces deux partis n'ont pas la majorité absolue depuis les dernières élections, ils doivent tenir compte des libéraux à qui ils ont dû concéder des postes ministériels et qui sont à la présidence de la République avec Andrej Kiska. Robert Fico et Smer sont donc sous contrôle d'une certaine manière, mais avec quand même un discours populiste. Mihal Ksinyan, historien à l'Académie des sciences de Bratislava.
Le parti de Robert Fico, Smer, qui sont officiellement sociaux-démocrates, c'est un parti qui propose un peu quelque chose à tout le monde. Ils sont à la fois sociaux-démocrates, mais ils ne sont pas loin d'un conservatisme national. Ils jouent avec plusieurs cartes. Donc ça veut dire s'il veut maintenir sa position dominante sur la scène politique slovaque, il doit sortir plusieurs sujets qui intéressent beaucoup de gens. Donc ça, c'est à mon avis une raison. L'autre raison, c'est que en fait, en général, la grande majorité des élites politiques slovaques sont plus ou moins d'accord avec Robert Fico. Il y a quelques exceptions, comme le président André Kiska, il y a peut-être le président du parti Mosdhit, qui sont un peu plus bienveillants vis-à-vis des migrants. Mais en général, Robert Fico n'est pas une exception en Slovaquie. Même son plus grand opposant, Richard Sulík, d'un parti de droite, ils se disent libéraux. Il a tenu des propos assez similaires à Robert Fico. Donc, en général, il s'agit d'un avis qui est largement partagé par les élites politiques slovaques.
Ça veut dire que la société slovaque reste conservatrice ou le devient de plus en plus ?
Oui, je dirais les deux choses, parce que ce genre des propos, on était tenu déjà dans les années 90 contre les Hongrois, dans la même époque contre les Tziganes, puis ça s'est calmé un peu. Et maintenant, ce sont des migrants, donc si vous voulez, ce sont des discours qui sont toujours présents dans la société slovaque, mais on ne les voit pas trop à l'étranger parce que ce n'est pas un sujet d'actualité. Bon, les Tziganes, on ne peut pas comparer ce sujet au sujet des migrants. Donc, à mon avis, la société slovaque reste assez conservatrice. Et avec ce flux de migrants, ça, en fait, ce conservatisme se renforce.
Mais pourtant, il n'y a pas encore de migrants en Slovaquie.
Oui, mais ça n'empêche pas qu'ils ne sont pas ici, c'est vrai, mais ils sont dans toutes les chaînes télé, ils sont dans tous les journaux, dans tous les hebdomadaires. Donc, même s'ils ne sont pas ici physiquement, on parle d'eux sans cesse. C'est déjà un sujet d'actualité, les gens ils ont peur. Je ne comparerai pas le régime en Hongrie avec le régime en Slovaquie, même si bien sûr il y a plusieurs traits communs. Je pense que la situation de la démocratie, de la liberté est plus favorable en Slovaquie, même si on fait la comparaison avec la Pologne. Ici, il y a, en fait, Robert Fico s'est allié avec les gens comme Lajčák, qui est maintenant le ministre des Affaires étrangères, donc des gens qui sont un peu plus libéraux. Donc, un tel virage dans la politique slovaque, en fait, pour le moment, ne semble pas réel. Peut-être avec Robert Fico, oui, mais pas avec tout le monde dans son entourage.
Bratislava, capitale de la Slovaquie, pays qui préside l'Union européenne jusqu'à la fin 2016. Nous allons aller sur la place de la vieille ville, au cœur du centre de Bratislava, pour y rencontrer Michal Havran, l'un des plus fins analystes politiques en Slovaquie et en Europe centrale, pour parler de ce retour du conservatisme dans toute la région.
Ce pays sont réputés pour jamais être d'une grande tradition libérale. En fait, si vous regardez bien l'histoire, on va dire à partir du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, on voit que la force libérale arrivait à façonner l'opinion publique ou le politique seulement en moment de la prospérité économique. Systématiquement, il y a un grand retour vers le conservatisme, soit ethnique, chauvino-nationaliste ou alors religieux. Ou alors, dans le cas éventuellement de Tchèque, c'est plutôt un chauvinisme culturel. Mais il est vrai qu'on n'a jamais eu de grande tradition libérale. Et donc, du coup, c'est vraiment juste plutôt le retour à une normalité.
Avec les grandes villes qui restent quand même un peu différentes des campagnes plus traditionnelles et plus catholiques.
Oui, alors c'est vrai que Vienne, Budapest, Bratislava et Prague font plutôt partie de cette autre Europe centrale, plutôt littéraire et artistique, de cette tradition qui est née à la fin du 19e et qui a continué entre deux guerres. Et il est vrai que même Bratislava aujourd'hui se positionne, elle, comme une grande ville libre qui protège en quelque sorte ses enfants, comme on aime bien dire en France quand on parle des enfants de la République, que pratiquement tout le jeune, on va dire, libéraux ou homosexuels viennent se réfugier en fait en ville parce qu'ils savent qu'ici ils sont en sécurité. Et personne ne les inquiète pour leur style de vie. Et c'est exactement la même chose qu'on avait vu en Autriche, que c'est Vienne qui a finalement fait reculer Hofer. Encore qu'on verra comment ça va se passer. Et puis à Prague, Budapest, c'est exactement la même chose. Le problème, c'est que si vous avez une ville comme Bratislava dans un pays de 5 millions d'habitants et vous avez à la base journalière 1,5 million d'habitants dans cette ville, Ça veut dire que c'est pratiquement un tiers du pays qui séjourne ici. Et paradoxalement, ça fait beaucoup baisser l'impact de la rhétorique anti-immigrée parce que les gens ici vivent dans une ville qui est devenue une ville métropolitaine en l'espace de 20 ans. Ils voient le monde vraiment différemment. Il y a des quartiers des étrangers qui sont installés ici. Il y a des quartiers arabes, des quartiers chinois, vous avez tout ce que vous voulez. À une toute petite échelle parisienne, mais la diversité, elle est tout à fait pareille. Et ça finalement, ça joue contre les hommes politiques et les femmes politiques qui essayent de présenter, par exemple, le Slovaque comme une espèce de ruraux arriéré catholique illettré, quoi. Parce que c'est pas du tout le cas, en fait. Donc, il y a vraiment aussi une demande de autre chose. Les gens ne veulent plus écouter ou veulent pas que écouter tout ce charabia anti-immigré et tout, parce que je pense qu'il y a tout le monde qui le sait très bien, même à la campagne, que finalement, en fait, le problème de ce pays, c'est pas les immigrés, quoi. Vous allez dans des bars à la campagne et les gens, ils le savent. Donc, il y a cette coupure, mais en même temps, ces villes-là, elles ont quand même le poids, mais majeur. Leur position va jamais être menacée, puisque 70% de PIB de Slovaquie est fait à Bratislava. Voilà. Donc, il y a un grand capital derrière cette prospérité et derrière cette liberté qui règne sur cette ville.
Nous quittons Bratislava et nous allons pas si loin, à Vienne, la capitale autrichienne. Vous avez terminé votre périple, Bruno. Ce dimanche, les électeurs autrichiens vont devoir donc voter une deuxième fois pour le deuxième tour de la présidentielle, un deuxième tour qui avait été invalidé en mai dernier. Le candidat écologiste, Alexander Van der Bellen, l'avait emporté, mais de si peu, 30 000 voix environ, qu'il a fallu donc revoter. Et cette fois-ci, c'est plutôt le candidat du FPE, le parti d'extrême droite, Norbert Hofer, qui tient la corde.
Oui, un second tour de la présidentielle annulé, non pas pour des fraudes, mais pour un dépouillement des votes qui ne s'était pas déroulé exactement dans les règles. Puis un second tour retardé de 2 mois parce que le matériel du vote par correspondance n'était pas aux normes. Cela fait quand même beaucoup pour la démocratie autrichienne et cela exaspère l'électorat pour le député libéral Christoph Wawrick du parti Neos Nouvelle-Autriche.
Je pense que la mobilisation est toujours là pour cette élection. Dégoût de la politique, je ne dirais pas, mais il y a une certaine déception de la part de l'électorat quant aux capacités du gouvernement à gérer des choses aussi simples qu'une élection. D'une manière un peu vulgaire, ça la fout mal quand même. Le clivage droite-gauche n'est plus vraiment là. Je ne dirais pas que maintenant c'est progressiste-conservateur. Je pense que c'est d'autres questions de société qui clivent, par exemple la question de l'immigration. Par exemple, je regarde à gauche, dans le Parti socialiste, il y a un clivage très net entre une partie de l'électorat socialiste qui est très sceptique sur l'immigration, qui voit là un danger pour le chômage, qui voit une augmentation du chômage, qui voit la concurrence d'immigrés qui sont prêts à travailler pour beaucoup moins, etc. Et puis une autre aile du Parti socialiste qui insiste sur des questions de solidarité, etc. et qui cherche des solutions européennes. Et vous trouvez ce même clivage, peut-être dans une moindre mesure, auprès du Parti conservateur. Donc voilà un exemple d'une question qui partage non pas entre droite et gauche, mais dans chaque parti, des camps, ça peut être exagéré, mais des chemins différents.
Et du coup, cette présidentielle autrichienne, est-ce un petit peu le symbole de ces choix un petit peu nouveaux?
Oui, tout à fait. Vous avez raison. C'est un peu le symbole, ce choix. C'est le symbole d'abord de la perte de réalité ou la perte du pouvoir des partis traditionnels. Et c'est quand même extraordinaire que, au premier tour, les deux candidats des partis qui sont encore au pouvoir en ce moment en Autriche, donc du Parti socialiste et du Parti conservateur, ont chacun reçu 11% des voix. Donc, à eux, ensemble, ils ont reçu moins des voix que le candidat vert ou que le candidat du parti d'extrême droite. C'est quand même extraordinaire. Donc, déjà, ça, c'est quand même symbolique, la manière dont ces deux partis ont finalement perdu pied, ils nagent. Et d'un autre côté, d'autres questions qui apparaissent, justement la question Europe solidaire, oui ou non, retour vers un nationalisme frileux, oui ou non, question de subsidiarité, question aussi d'identité culturelle, il faut le dire. Le parti d'extrême droite insiste lourdement là-dessus, que bon, un pays comme l'Autriche a droit à une identité culturelle et que cette identité est menacée, que le multiculturalisme a fait faillite, etc.
La coalition au pouvoir entre conservateurs de l'OVP et sociaux-démocrates du SPE a des résultats économiques satisfaisants. Pourtant, L'extrême droite du FPE, le Parti de la Liberté d'Autriche, est aux portes du pouvoir. C'est que le malaise est plus profond pour le journaliste au quotidien Wiener Zeitung, Alexander Matte.
Bien qu'on ait un taux de sans-emploi pas trop élevé, donc on est à peu près à 6%, c'est pas mal déjà, mais les jeunes, on a un taux de sans-emploi des jeunes, c'est entre 11 et 12%. Bien sûr, il y a des gens qui sont pas contents de la situation économique, mais bien sûr, la FPE a su bien jouer aussi sur la crise des réfugiés. Donc, je suis jeune, j'ai pas de travail, donc j'ai peur s'il y a quelqu'un qui vient. C'est aussi, j'ai peur de l'inconnu. C'était frappant pour les dernières élections à Vienne, autant la présidentielle que les élections de la commune, que c'était surtout dans les arrondissements et les endroits où il n'y avait pas d'immigration que la FPE était la plus forte. Dans les quartiers où, avec l'immigration la plus importante, c'était les Verts qui l'ont emporté. Donc, si je suis quelque part content et il arrive des réfugiés ou ça arrive, quelque chose change. C'est pas vraiment important que change, mais quelque chose me menace de changer le mode de vivre avec lequel je suis content. Donc là, s'il y a quelqu'un qui me fait peur, et c'est ce que l'FPE fait. Elle fait peur. Elle dit tout va changer pour vous. Vous allez jamais plus trouver de travail parce qu'il y a des réfugiés qui viennent et qui prennent les places. Vous allez jamais plus pouvoir vivre de la façon culturelle que vous meniez jusqu'à maintenant. Ah, ça va changer parce qu'il y a des étrangers qui arrivent. Donc l'FPE joue sur cela et il y a pas mal de gens apparemment qui entrent dans ce discours et cette idée.
Contre ça, le gouvernement n'a rien réussi à faire.
Non, c'est aussi intéressant parce qu'au début, l'ex-chancelier Faymann, il a même fait allusion au temps de la Seconde Guerre mondiale quand Viktor Orban a fermé les frontières. Et maintenant, Viktor Orban, il est passé des persona non grata à un partenaire. Et soudainement aussi en Autriche, on parle des quotas, bien que on ne sait même pas ce qu'on va faire vraiment le moment, le jour que le premier arrive après le remplissement de la quota.
Le FPE n'est pas issu de la droite conservatrice traditionnelle catholique, mais de l'extrême droite anticléricale et pan-germaniste. Pourtant, son candidat à la présidentielle, Norbert Hofer, et son leader, Heinz Christian Strache, tentent de faire oublier ses racines. Thomas Angerer, maître de conférence à l'Institut d'Histoire de l'Université de Vienne.
Monsieur Strache représente un populisme de droite qui essaye de se délimiter de l'extrême droite en marquant ses distances par rapport au nazisme, par rapport à la nostalgie du nazisme qui a pu être toléré au sein de son parti dans les dernières décennies, notamment sous Jörg Haider, son prédécesseur. Selon l'apparence, il prend ses distances très régulièrement, ce qui le rapproche plutôt de la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen. Et le FPE se donne une image plutôt de modernité tout en jouant sur les peurs des perdants de la modernisation. Hein. Mais c'est l'ambiguïté bien connue de tous les populismes de droite et d'ailleurs de gauche aussi. On retrouve en Autriche le même clivage entre centre urbanique et province. On les retrouve non seulement entre Vienne et le reste du pays, mais également entre les grandes villes de province comme Graz, Salzbourg, Linz et autres, et la province. Donc il y a ce fossé, mais d'un autre côté, y compris à Vienne, le FPE a pris une importance assez grande. Vous avez un grand arrondissement qui maintenant est gouverné par un FPE. Donc le FPE est une force importante à Vienne, notamment dans les arrondissements anciennement quasiment monopolisés par la gauche. Ce qui nous renvoie à un des problèmes de fond du populisme en Europe, c'est que nous parlons toujours d'un populisme de droite, mais en fait c'est un mélange de sources diverses. Tous les partis populistes ont toujours le problème qu'ils n'ont pas vraiment d'idéologie. C'est un fond idéologique très étroit, donc il faut qu'il se nourrit d'autres sources. Il est vrai pour le FPE, comme pour Orban et autres populismes de droite, qu'il y a le penchant majeur à droite sous forme de nationalisme. Mais en ce qui concerne la politique sociale, par exemple, les positions FPE sont beaucoup plus proches du SPE que des conservateurs. Et c'est là où ils gagnent en faisant double jeu sur un antilibéralisme, en jouant sur une protection améliorée dans le domaine social d'un côté, et d'une protection identitaire sous forme de nationalisme classique. Regardez le Parlement européen. Vous avez déjà une coalition, et Strach et Mme Le Pen sont un couple redoutable.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Marine Le Pen.
Aux côtés de Marine Le Pen, le FPE tient un discours anti-européen virulent, allant parfois jusqu'à réclamer un exit, une sortie de l'Autriche de l'Union européenne. Sonja Puncher-Rickmann, professeur au Centre d'études de l'Union européenne à l'Université de Salzbourg.
Il y avait un moment où il a proposé un exit, mais il a retracté immédiatement, après, je ne sais pas, un ou deux jours. Je crois aussi sous la pression du leader du parti Strache, qui, pour le moment, il fait homme d'État et pas homme de l'opposition. Bien que l'opposition à l'Union européenne faisait partie de ce volet depuis les années 90, quand l'Autriche a cherché l'adhésion à l'Union. Mais maintenant, on cherche plutôt, on essaye de vivre un rôle présidentiel, homme d'État, on est sérieux et pas populiste.
Et du coup, est-ce que si le FPE arrive au pouvoir, soit avec la présidentielle, soit plus tard aux législatives, est-ce que vous pensez que ce parti pourrait s'allier avec des eurosceptiques en Europe, peut-être pas pour sortir, mais au moins pour essayer d'avoir une Europe plus, entre guillemets, nationale?
Ah, certainement, vous aurez vu que M. Strach, le leader du parti FPE, a déjà rencontré Marine Le Pen, Wilders de l'Hollande, etc. On cherche à se grouper ou à créer un groupe qui réforme l'Union. Il y a eu dans le passé des moments où ce parti a proposé la sortie de l'euro, en particulier au moment de la crise de l'euro, et la nécessité de transférer des sommes ingentes à la Grèce, etc. Il y avait des slogans proposés par M. Strache que « notre monnaie pour notre peuple ». Voilà. Mais ça a aussi disparu. C'est très intéressant comment ces thèmes surgissent et disparaissent. Hein? Alors, pour répondre à votre question, je crois que c'est aussi un peu question de ce qui se passe dans les autres pays. Certainement, on attend les élections présidentielles en France. Si Marine Le Pen, je ne sais pas s'il y a des chances, sera présidente, alors je crois que les choses changeront, bien sûr.
Europe Centrale, le laboratoire du populisme, c'est donc un magazine de la rédaction de Bruno Cadenne réalisé par Annie Brault. Alors Patrick Moreau, puisqu'on vient de parler d'Autriche et que vous êtes un spécialiste de ce pays, on va commencer avec vous, on va parler de ces élections et de tout ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que si dimanche soir c'est Norbert Hofer qui l'emporte, donc le candidat d'extrême droite, l'Union européenne, on vient de l'entendre, est en danger ou pas?
Je ne dirais pas directement, parce que la constitution de 1920, révisée en 1929, donne au président de la République en Autriche la capacité de renvoyer le chancelier en place et de nommer qui il veut comme chancelier. C'est une carte extrêmement lourde, qui n'a jamais été jouée. Mais dans la stratégie du FPE, il faut que ce soit une stratégie gagnante, c'est-à-dire nommer Strache et ensuite vivre une catastrophe aux législatives, c'est pas du tout sa perspective. Sa perspective est de trouver des alliés au sein d'un des grands partis démocratiques, qu'il s'agisse de la social-démocratie ou qu'il s'agisse des conservateurs. Si je puis me permettre une analyse directement contemporaine, je dirais que les mouvements les plus nets que je peux enregistrer sont dans le cadre de la social-démocratie. Il y a au sein de la commission des valeurs qui travaille à Vienne ce qu'on a appelé la théorie de la ligne rouge, c'est-à-dire en clair, à partir de quand on ne pourrait pas se mettre en situation d'alliance avec Strache. Mais ça veut dire aussi qu'au-delà de la ligne rouge, pratiquement, on réfléchit sur cette possibilité. Deuxièmement, il faut voir que Strache est associé au pouvoir dans des Landes, dans un cas avec le VAOP et dans l'autre cas avec les sociaux-démocrates. C'est-à-dire que de facto, à travers le système de la proporte, qui est celle de la division du pouvoir au sein de l'Autriche, vous avez en fait une association du pouvoir à tous les niveaux, c'est-à-dire régional, communal, et puis je dirais à la société autrichienne. Le FPE est partout. C'est un parti à 35% des voix et c'est un parti qui a achevé sa dédiabolisation. Il est à peu près à 70% d'Autrichiens qui disent que le FPE est un parti normal.
Alain Soubigou, vous dites pareil qu'il n'y a pas vraiment d'union populiste contre l'Union européenne en Europe centrale. On ne peut pas dire ça.
Non, pour la bonne raison que pour des raisons d'intérêt, les uns comme les autres, à un moment, sauront ne pas franchir la ligne rouge anti-Bruxelles, anti-Europe, qui pourrait, sinon couper directement les crédits, du moins permettre à Bruxelles d'avoir une politique beaucoup plus nette de conditionnalité des financements européens pour des projets qui partiraient de Vienne. Donc non, je pense pas qu'il y ait une radicalisation. Je dirais que ce que l'on voit dans un tout autre espace, Monsieur Trump, qui est en train de, on va dire, mettre de l'eau dans son vin après des propos de campagne très radicaux. Bon, après, une fois la campagne passée, on peut revenir aux choses sérieuses. Et c'est probablement dans l'hypothèse d'une victoire de Monsieur Hofer ce qui se produirait.
Alors, est-ce qu'on peut, on peut rester peut-être sur la comparaison avec les élections américaines? Est-ce qu'au fond, comme on l'a vu au cours de ces élections, comme on l'a vu aussi en Angleterre avec le Brexit, s'il y a une fracture, elle n'est pas plutôt entre des villes et des campagnes? Il y a une des villes plutôt libérales et des campagnes en Europe centrale plutôt réactionnaires ou traditionnalistes.
Oui, cette césure fonctionne tout à fait. Il y en a une autre qui a été bien repérée dans le cas du Brexit, c'est aussi la césure par âge. Les jeunes urbains sont beaucoup plus que les âgés ruraux, pro-européens, ouverts aux nouveautés, ouverts à des nouveautés sociétales en particulier. Et là, il y a une ligne de césure. Alors, attention, ce serait une vue de l'esprit très occidentale d'imaginer que par la montée des générations, le problème du national-conservatisme pourrait se résoudre de lui-même. Non, il y a des vraies causes.
On l'a vu en Pologne d'ailleurs, où le parti Droit et Justice est arrivé en grande partie grâce aux jeunes.
Exactement.
Pas aux jeunes, donc, des campagnes, des petites villes, pas forcément aux jeunes de Varsovie.
Tout à fait, il faut se garder de l'illusion générationnelle, c'est pas ça qui sauvera la démocratie en Europe centrale.
D'un point de vue économique, on parle de trois pays là qui finalement ont des résultats que la France aimerait bien voir en termes de chômage, en termes de croissance. On ne peut pas dire que cette montée du populisme, elle est liée directement avec la crise économique, comme on le dit souvent. Je pose la question à tous les deux.
Alors là, il y a un énorme problème de perception qui va jusqu'à la construction de fantasmagories sur le désir, par exemple, puisqu'ils sont souvent accusés, des migrants de venir massivement en Hongrie, en Pologne, qui sont, à vrai dire, un peu à côté des flux qui remonte en gros l'axe danubien pour aller vers l'Autriche et vers l'Allemagne. La Pologne, la Slovaquie, la Hongrie sont relativement en marge de ces flux. Et quand on interroge de manière empirique, mais même de manière plus systématique, les migrants, ce ne sont que des pays de transit. Donc les indicateurs macroéconomiques et les interrogations qu'on peut avoir nous disent assez clairement que le problème n'est pas de ce côté-là.
Patrick Moreau, pour l'Autriche, c'est un pays de destination peut-être plus.
Oui, bien sûr, c'est un pays de destination. Je voudrais revenir quand même sur la notion d'électorat, sur l'input économique. En fait, lorsqu'on analyse l'agglomération du vote FPE, vous avez deux dimensions. Vous avez une dimension, je dirais, perdant de la mondialisation. C'est devenu une évidence. Il y a un certain nombre de gens dans la société autrichienne qui se sentent placés en marge, mais c'est peut-être pas l'élément dominant. Ce qui m'apparaît l'élément de mobilisation de plus en plus fort, c'est ce qu'on appelle les peurs, mais c'est corrélé intellectuellement avec un pessimisme collectif. C'est une dimension qui est un petit peu oubliée, le pessimisme collectif. collectif, ça a été un des grands marqueurs de la crise des années 30 et c'est réapparu en Autriche. Vous avez aussi un découplement des institutions, c'est-à-dire que les partis politiques sont considérés comme ce qu'il y a de pire sur le marché, alors que des institutions de proximité comme la police ou l'armée ou la justice continuent à avoir un très haut niveau d'acceptation. La deuxième dimension, c'est que pour réussir à atteindre 50%, il y a eu agglomération d'un second groupe, qui est celui des gagnants de la modernisation. C'est-à-dire des gens qui sont en fait dans les sociétés, qui possèdent des biens, qui possèdent de l'argent, etc., mais dont le principal élément de mouvement en direction du FPE est la perte justement des intérêts acquis. Donc vous avez une théorie de l'optimisation du gain. Un certain nombre de groupes sociaux cherchent la solution qui va leur rapporter le plus. Élément commun à ces deux blocs, c'est le rejet de l'immigration. Du côté des perdants de la mondialisation, parce qu'il s'agit d'une concurrence, et du côté des gagnants de la modernisation, parce que c'est un danger pour les acquis, comme les systèmes de protection sociaux, les retraites, etc. Donc l'économie est un input fort, mais c'est un input divisé en de nombreuses facettes complémentaires.
Avec quand même un point commun, c'est-à-dire qui mène tout ça, sont peut-être une nouvelle génération de politiques conservateurs, qui sont plus jeunes et qui sont meilleurs communicants peut-être. On entendait tout à l'heure ce dirigeant
qui fait du rap. Fitzo, ce sont des jeunes dirigeants.
Tout à fait. Mais ce qui me gêne le plus, c'est le terme de conservateur. Fondamentalement, je crois qu'il y a une différence de fond, de nature, entre le conservatisme et la doctrine nationale populiste.
Surtout en Autriche.
Voilà. Donc c'est très important de voir ça. Il ne s'agit pas exactement du même monde. J'ai interviewé Strache, je ne veux pas rentrer là-dessus, mais une de ses premières réactions était de dire que le monde conservateur, c'était l'ennemi premier et qu'il avait des valeurs communes avec le socialisme. Donc encore une fois, il ne faut pas se tromper. C'est pas une montée du conservatisme, simplement sous l'aspect identitaire, c'est vrai. Mais sur le fond, il ne s'agit pas d'une doctrine conservatrice qui veut se mettre en place avec Strache.
Bruno Cadet.
Alors justement, Alain Soubigou, peut-être que là, il y a une différence. Si on prend dans notre imaginaire la chute du mur en Tchécoslovaquie, République tchèque et Slovaquie, c'est Václav Havel. Donc ce sont des intellectuels démocrates libéraux. Mais est-ce que, comme le dit Michal Avran dans le reportage, finalement, on s'est pas un petit peu trompé dans la mesure où, fondamentalement, ces terres restent quand même, dès que l'on sort des grandes villes, profondément traditionnalistes, catholiques et conservatrices, et qu'elles ont été libérales que dans les moments où ça allait bien?
Oui, alors là, vous posez plusieurs questions simultanément. Le traditionalisme, oui, est peut-être plus en jeu que le national-populisme proprement dit, tel qu'on l'entend en Europe occidentale. Alors, le critère, la variable catholique fonctionne dans le cas, évidemment, de la Pologne, partiellement dans le cas de la Slovaquie, de manière beaucoup plus compliquée dans le cas de la Hongrie, puisque vous savez qu'une bonne partie des élites sont plutôt calvinistes. Oui. Ça fonctionne très bien en Autriche. Donc, vous voyez, régionalement, il faudrait nuancer. Dans le cas de la République tchèque, il faudrait très, très sérieusement
oui,
nuancer.
La religion, c'est
pour
différent.
Pour des histoires assez anciennes, historiques, tout à fait. Il y a un héritage hussite plutôt protestant. Donc on ne pourra pas aller très loin dans le traditionalisme catholique. Il y a d'autres paramètres qui interviennent, je pense.
Est-ce que cette arrivée des migrants en Europe centrale a réactivé, en quelque sorte, un racisme qui était là, une xénophobie qui était là, latente, et qui a finalement toujours existé?
Qui jusqu'à présent concernait surtout les juifs,
les minorités, les roms,
etc. Et qui s'est déplacé vers les migrants inconnus?
Oui, alors il y a une part de méconnaissance qui tient d'abord à la taille des pays. Autant l'Autriche a été un très grand pays avec 54 millions de sujets en 1910, de nos jours c'est un petit pays de 8 millions d'habitants avec une capitale presque surdéveloppée, avec une grosse tête, qui n'a plus les rapports quasi mondiaux qu'elle pouvait avoir encore au début du XXe siècle. Les autres pays sont, je dirais, gentiment provinciaux. La Slovaquie n'a pas d'accès à la mer, la République tchèque n'a pas d'accès à la mer, la Hongrie ne voit la mer que de très loin. Bref, la vision mondiale fait souvent défaut chez les élites de ces pays. Et voir des immigrants dont on ne comprend pas les causes de départ, les caractéristiques religieuses, évidemment, ça fait un peu peur. Et là, seule une vision européenne peut permettre à chacune des élites et au-delà, à chacune des nations, des populations de ces nations, de comprendre ce qui est en jeu dans ces grandes migrations.
L'Autriche, c'est le symbole du grand pays devenu petit et qui a du mal à l'accepter.
Oui, ça a toujours été le grand traumatisme. Enfin, je me souviens des années 70 à Vienne, c'était la fin du monde. Il y avait de l'autre côté le monde communiste. Et les Autrichiens pleuraient sur la disparition de la monarchie Kaunka. Il faut revenir sur la question des réfugiés. Il y a une différence fondamentale, si vous voulez, entre l'Europe de l'Est et l'Autriche. C'est qu'en Europe de l'Est, il y a relativement peu d'immigration et en Autriche, il y a eu une immigration extrêmement rapide, extrêmement visible qui est arrivée. Donc, pratiquement, le choc a été très, très fort. Et la modification du discours, mais là, encore une fois, le discours du FE est devenu beaucoup plus complexe que le rejet de l'immigration. Ce qui fait la force, en fait, du discours du FPE, c'est qu'il a couplé la dialectique de l'anti-immigration, qui consiste à dire il faut arrêter, il faut bâtir un mur et les empêcher de venir. Il a introduit la dimension de l'antithétisme existant entre l'islam et les valeurs de la démocratie. C'est-à-dire qu'il considère, et il affirme en permanence, l'islam est une religion politique, et la nature de cette religion politique fait qu'elle n'est pas compatible avec la constitution autrichienne. J'ai failli faire un jeu de mots involontaire. Donc, et c'est très important parce que, pour la première fois, ça a permis au FPE d'occuper des marqueurs libertaires. Par exemple, le droit de la femme a été récupéré par le FPE qui dit « Au nom de la défense contre l'islam, je préserve le rôle de la femme dans la société autrichienne ». Donc, vous voyez, fondamentalement, c'est pas seulement l'arrivée et puis les ghettos qui sont en train de se créer et les problèmes économiques liés au fait que ça coûte très cher aussi aux Autrichiens, c'est l'apparition d'un discours beaucoup plus vaste, beaucoup plus refondateur, en fait, du monde. Et c'est ça qui fait fonctionner le FPE.
Est-ce qu'il y a dans ces trois pays, Autriche, Slovaquie, Hongrie, un lien historique pas totalement digéré, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale ? L'Autriche était dans le Reich, il y avait un gouvernement en Slovaquie collaborationniste avec Mgr Tissot, c'était la même chose en Hongrie. Est-ce qu'on a vraiment, dans ces pays, fait le point sur la Seconde Guerre mondiale ? Et en particulier en Slovaquie ou en Hongrie, c'était peut-être pas possible parce qu'il y a le communisme qui est tombé tout de suite dessus.
Oui, on a des nuances quand même, hein, parce que par exemple en Slovaquie, il y a une très forte résistance.
Il y a une résistance dans l'est du pays, c'est
tout à fait. En Hongrie, c'est beaucoup moins le cas. Il y a un héritage antisémite en Hongrie très pesant, hein, jusqu'à nos jours. Donc on a, rien que pour ces trois pays, déjà de sensibles nuances vis-à-vis de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il est vrai qu'il y a eu une espèce de chape, en tout cas dans les deux pays ex-communistes, Slovaquie et Hongrie, une chape d'interprétation communiste qui a exalté les rares personnalités qui ont été d'authentiques résistants anti-nazis.
Alors, on a parlé beaucoup de ces partis, mais il y a aussi les oppositions. Mmh. Et ces oppositions libérales, la plupart du temps, ne sont pas totalement broyées. En Autriche, on est à 50-50. En Hongrie, il y a quand même des échecs pour Orban. Il y a eu des manifestations contre ses projets dans l'éducation. Il y a eu son échec au référendum, même si, voilà, il n'a pas obtenu les 50%.
Même si le premier quotidien d'opposition a quand même été interdit de faire.
Mais en Slovaquie, les libéraux ont empêché la majorité absolue pour Fico aux dernières élections. Est-ce que quand même cette opposition, que ce soit en Autriche ou dans ces deux autres pays, est toujours vivante et est quand même capable d'arrêter quelque chose?
Alors, je dirais, ça va être très très méchant, mais je dirais que les partis démocratiques en Autriche sont en situation de mort-vivant. Il y a eu un vide intellectuel absolument fascinant qui est dû à la nature du système politique autrichien, ce système de proportionnalité, de division du monde pour empêcher les concurrences extérieures. Donc les partis se sont vidés intellectuellement et ils n'ont compris que très tard le début de refondation du discours conservateur en Autriche, c'est 2015. La commission Vérité, c'est 2016 au sein du FPE. Donc c'est très tard. Et la principale qualité du FPE a été effectivement de bâtir une idéologie, une offre idéologique très solide, très complexe, et j'en parle dans mes travaux. Et c'est ça qui n'a pas été vu. Aujourd'hui, ils l'ont compris, tout le monde l'a compris, mais on peut se demander si c'est pas trop tard.
Alain Soubigou, dans les autres pays, les oppositions sont encore vivaces et jouent leur rôle?
Oui, il faudrait faire attention aux termes, parce que vous posez la question sur les partis libéraux, et je souscris tout à fait à la réponse de mon collègue Moreau, à savoir qu'il s'agit de partis démocratiques. Il faut peut-être bien isoler les termes et les partis dont on parle.
rapidement.
Il y a peut-être une question aussi de personnalité. On a affaire dans les partis d'opposition à des personnalités un peu mièvres, un peu, enfin, pas capables de tenir un discours mobilisateur. C'est un effet de génération aussi. Après la génération de ceux qui ont fait les révolutions, en gros, hein, dans les pays ex-communistes, eh bien, on a des personnalités beaucoup plus tièdes, beaucoup plus molles et qui sont beaucoup moins susceptibles de créer l'adhésion. En face, les partis de rupture conservatrice ont la chance d'avoir des personnalités qui ont de l'allant et qui attirent, y compris les nouvelles générations.
Très bien, on verra les prochaines générations dans l'opposition. Merci beaucoup à tous les deux. Alain Soubigou, donc historien, maître de conférence au Centre d'Histoire de l'Europe Centrale Contemporaine à Paris, à Sorbonne. Et à vous Patrick Moreau, historien, politologue au CNRS, membre du think tank Fondapol, spécialiste de l'Autriche. Merci aussi à Jean Frédérix qui s'occupait de la technique ce soir. Europe Centrale, laboratoire du populisme. Un magazine de la rédaction signé Bruno Caden et réalisé par Annie Brault. Et un magazine que vous pouvez retrouver dès à présent sur notre site internet franceculture.fr. Depuis la diffusion de ce magazine, le 12 décembre dernier, l'Autriche s'est choisi un président et a marqué un coup d'arrêt à l'ascension du populiste Norbert Haufer, puisque c'est Van der Bellen, l'écologiste, qui l'a emporté. Mais les accents populistes devraient résonner de nouveau lors des législatives d'octobre, où s'invitera le débat sur les migrants. Ces populistes d'Europe centrale et orientale qui ont également reçu le soutien de Donald Trump. Le président américain était début juillet en Pologne pour un discours à notamment sur les valeurs. L'analyse à ce sujet de Georges Minck, directeur de recherche émérite au CNRS et professeur au Collège Europe à Natolin en Pologne. Il est interrogé par Marie-Pierre Véraud.
Les Polonais ont toujours eu une sorte de tentation transatlantique. Les États-Unis sont très populaires en Pologne, ont joué un rôle important dans la politique étrangère de la Pologne. Mais c'est vrai aussi qu'avec ce président-là singulièrement, la proximité des vues sur ce que sont les sociétés, les systèmes politiques est si grande qu'évidemment c'est très tentant pour le gouvernement conservateur et relativement nationaliste polonais de jouer la carte américaine à la fois dans les enjeux vis-à-vis de l'Union européenne qui, comme vous savez, a déclenché une procédure de contrôle de l'état des droits en Pologne, mais aussi par rapport aux intérêts propres de la Pologne.
Donc il y a les questions de sécurité, hein, et puis les questions d'identité également, puisque Donald Trump est allé sur ce terrain lors de son passage à Varsovie, sur ce terrain des valeurs menacées.
Oui, tout le discours était d'une convergence extraordinaire avec l'idéologie du gouvernement actuel. Il a bien souligné que la Pologne était une sorte de Christ des nations. La Pologne a toujours souffert, la Pologne a donné son sang pour les autres. C'est donc la Pologne martyre, héroïque. La Pologne, dans l'esprit de Donald Trump et évidemment dans l'esprit de Jarosław Kaczyński, c'est un pays antémoural en quelque sorte de la civilisation chrétienne. Trump s'est placé explicitement dans la logique du clash des civilisations, disant que la Pologne est ce pays dont il faut prendre l'exemple pour défendre la civilisation occidentale.
Et si l'on veut regarder aussi vers la Hongrie, vers la Slovaquie, voire l'Autriche, où il y a peut-être une convergence aussi idéologique, est-ce qu'il peut y avoir un axe qui se construit avec ce président américain-ci et ces pays-là?
Personnellement, je pense que cet objectif est un peu utopique parce que chacun des pays de l'Europe centrale, il se compose finalement des pays aux intérêts très différenciés. Mais bon, évidemment, la parole elle-même suffit parfois pour donner de l'espoir, du courage et du dynamisme aux populistes de ces pays qui voient là un grand frère tenir le même discours idéologique qu'eux-mêmes.
Europe centrale, le laboratoire du populisme, un magazine que vous pouvez retrouver sur franceculture.fr. We'll be right back.